Chapitre 12, où l'on voit que si Will Wright se tenait sur ses gardes, Shuttlecock était aussi sur les siennes. James Will Wright, à demi étendu sur un divan dans son atelier, fumait nonchalamment un cigare, les yeux à demi fermés, comme s'il se laissait aller à une rêverie d'artiste. Or, le peintre américain ne devait pas beaucoup en ce moment songer au motif intéressant et pittoresque entre tous que ce beau pays lui offrait en surabondance. Car au bout d'un instant, son visage se contracta, ses lèvres se pincèrent, et jetant d'un mouvement brusque son cigare à peine à demi consumé à travers une baie ouverte sur le jardin, il proféra en anglais un juron qu'il n'eût pas été besoin de traduire en français pour faire comprendre que celui qu'il laissait échapper était d'une humeur exécrable. Puis, s'approchant de sa table de travail, il appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Aussitôt, une tenture qui dissimulait une porte s'écarta et Harold apparut. Will Wright attaqua aussitôt d'une voix sèche. « Je réfléchis à ce que vous m'avez raconté tout à l'heure. Il est hors de doute que le valet de chambre de Shuttlecock est venu ici en sondeur et que toute cette histoire a été inventée pour endormir mes méfiances. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui ou demain, le détective que vous avez si justement repéré sous les traits du valet de chambre Augustin de se présenta ici sous un de ses déguisements dans l'art duquel il est passé maître. Eh bien, vous êtes assez au courant de toute cette histoire, et vous m'avez suffisamment témoigné de dévouement depuis que vous êtes à mon service, pour que non seulement je continue à vous faire le confident de mes projets, mais aussi l'exécuteur de mes volontés, qui, je l'espère du moins, ne seront pas encore les dernières. La situation est fort nette et elle peut se résumer ainsi. Shuttlecock doit savoir beaucoup de choses. Il a dû notamment acquérir la conviction qu'il y avait partie liée entre mon frère et moi et que par conséquent, je devais savoir ce qu'était devenu l'enfant. C'est donc moi d'abord qu'il va chercher à faire parler. Je ne lui dirai rien, c'est entendu, mais mon silence ne l'empêchera pas de continuer son enquête. Fatalement, car il est très fort. Documenté, armé, comme il l'est déjà, il atteindra son but. La supercherie de Douglas sera étalée au grand jour, et le contrôle futur de la fortune des Colmage lui échappera à tout jamais, sans compter les poursuites judiciaires dont il sera l'objet, ainsi que moi, son complice. Harold appréciait. Je me demande pourquoi, tranquille comme vous êtes, vous avez été fourré dans un pareil guêpier. L'Américain eut un haussement d'épaule. Sur un ton de familiarité que lui permettaient les liens plutôt équivoques qui l'unissaient à son maître, le valet de chambre continuait. Pourtant, vous n'étiez pas en très bon terme avec votre frère. Will Wright expliquait. Même depuis la mort de ma femme, sa femme, nous nous étions rapprochés. Et puis, nécessité fait loi. J'avais fait de grosses pertes à la bourse et je me trouvais dans une situation plutôt fâcheuse. Mais je m'en doutais. Il fallait en sortir par n'importe quel moyen. La vente de mes tableaux n'était pas une ressource suffisante pour combler le déficit de ma caisse et me permettre de mener l'existence indépendante et confortable qui seule me convient. Alors j'ai accepté de prêter à mon frère, prêter, c'est une façon de parler, disons plutôt de lui vendre mon appui. Et ainsi que vous le savez, tout avait très bien marché. J'avais les Lachenais de me soupçonner. Et je suis convaincu que pas plus que la police officielle n'aurait jamais songé à aiguiller de mon état, de mon côté, ses recherches. Il a fallu que ce maudit Shuttlecock se mêlât de cette affaire. Et maintenant, il nous tient. C'est possible, admettait Harold, mais il ne tient pas l'enfant. Mais si nous refusons de le lui rendre, il nous dénoncera certainement la justice. Douglas et moi, nous sommes arrêtés. Et vous aussi, sans doute. Oh, c'est gai. Le fait est, reconnaissait Harold, que ce n'est pas très rassurant. Partir, reprenait Wheelwright. D'abord, il me faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et Chantecoq, habile comme il l'est, aussi vite fait de retrouver nos traces. Cependant, il faut en sortir. Oui, il faut en sortir, appuyait le domestique. Car je ne tiens pas à faire connaissance avec les cachots de la République française, bien qu'ils soient, dit-on, beaucoup plus habitables que les geôles de notre pays. La France, soulignait l'Américain, avec beaucoup plus de naïveté que d'ironie. On a beaucoup peu de considération pour les malfaiteurs qu'en Amérique. C'est possible, continua Aaron, mais rien ne vaut encore la liberté. À qui le dites-vous? Et pour rien au monde, je ne voudrais perdre la mienne. Il y aurait peut-être un moyen de tout arranger, insinuait Harold. Lequel? Bien, ce serait, par exemple, de dire à Shotcock, s'il se présente, « Si vous me promettez que je ne serai pas inquiété, ainsi que mon valet de chambre, je vous fournirai immédiatement le moyen de récupérer le petit Lachenay. » Vous croyez que Shotcock acceptera cette combinaison? Pourquoi pas? Et s'il ne tient pas parole, s'il nous fait coffrer? Harold réfléchit un instant. Puis, tandis qu'une lueur mauvaise s'allumait dans ses yeux, il reprit. « Mais il y aurait bien un autre moyen, qui d'abord aurait pour résultat de nous mettre à couvert, puis de vous procurer une somme d'argent qui ne serait peut-être pas la grosse fortune, mais vous donnerait le temps de voir venir. « Parlez donc, invitait l'Américain, très curieux de connaître l'expédient que son valet de chambre avait imaginé. Harold reprenait. Il est bien entendu que si vous touchez une prime, j'en aurai ma part. Mais fixez-la vous-même. La moitié. Soit, accepta Wheelwright, car il se sentait traqué. Et pour échapper à Chantecoq, il eût été capable de tous les sacrifices. Eh bien voici, dit Harold. S'approchant de son patron, il lui parla à l'oreille comme s'il redoutait que les paroles qu'il allait prononcer ne fussent surprises par quelque appareil indiscrète. Au fur et à mesure qu'il s'exprimait, le visage de Wheelwright se détendait et prenait une expression de satisfaction sans cesse grandissante. Quand Harold eut terminé, l'Américain déclara simplement « All right ! Téléphonez tout de suite à la Chesnay, que je l'attends ici pour une communication urgente. » Le valet de chambre s'enfuit vers l'appareil qui était placé dans le vestibule. Wheelwright, qui semblait entièrement rassuré, fit d'entre ses dents. « Décidément, cet Harold est un précieux serviteur. Il a le droit d'avoir des dents un peu longues. » 5 minutes après, Harold revenait annoncer. « Monsieur Lachenay sera ici dans un quart d'heure. »« Bien !» On sonnait à l'entrée. « Oh, ça !» fit l'Américain. « Mais qui peut bien venir me rendre visite à pareille heure ? Peut-être Shotcock, supposait le domestique. « Allez toujours voir. »« Et si c'est lui, dites-lui que je ne suis pas là. » « Mauvais !» fit observer le valet de chambre. « Pourquoi ?»« Ben vous auriez l'air d'avoir peur. Cela pourrait bien précipiter les événements. L'essentiel est de gagner le temps nécessaire pour vous mettre d'accord avec la Chesnay. Mais vous avez raison. Allez ouvrir, ordonnait James. Mais avant d'introduire le visiteur, quel qu'il soit, venez me faire part de votre impression. Compris. 2 minutes après, Harold reparaissait devant son maître. Il tenait un plateau à la main sur lequel il y avait une lettre. Tout en la présentant à l'américain, il fit à voix basse. Ce n'est pas un chant de coq. Vous en êtes sûr? Oui, absolument. C'est un missionnaire, le révérend Properec, de l'ordre de la Croix africaine. Il a l'air, ma foi, d'un très digne homme. Vous êtes bien certain que ce n'est pas chant de coq qui se cache sous ce missionnaire? Sans la moindre hésitation, Harold répliquait. Aussi habile soit ce détective à ce camouflage, il est impossible qu'il se soit transformé à ce point. Tout en écoutant son valet de chambre, Will Bright avait parcouru la lettre que celui-ci venait de lui remettre. Elle était ainsi conçue. « Bien que je n'ai pas l'honneur de vous connaître, je me permets de solliciter de votre bienveillance quelques instants d'entretien. En voici l'objet. » De passage en France et séjournant chez un prêtre de mes amis, M. l'abbé Le Cornec, chanoine et vicaire général du diocèse de Vannes, j'ai entendu raconter par lui qu'à l'époque de la Noël dernier, votre villa avait été visitée par des esprits. M'intéressant beaucoup au phénomène de l'au-delà, dans la mesure et dans les conditions que nous prescrit notre Sainte Mère l'Église, et conformément aux récentes instructions de notre Saint-Père le Pape Pie XI, j'ai pensé que je recueillerais sans doute auprès de vous des renseignements dignes d'attention. Je suis d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage intitulé « Des phénomènes surnaturels en Afrique » dont vous avez peut-être entendu parler. Aussi, j'ose espérer que vous ne refuserez pas de me recevoir. Soyez persuadé que je n'abuserai pas de votre bienveillance. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée, révérend père Properec. Cette missive, des plus correctes, ne pouvait qu'achever d'endormir la méfiance de l'Américain. Aussi ordonna-t-il à ses serviteurs d'introduire immédiatement le visiteur. Il n'y avait rien de surprenant à ce que, tout en se tenant sur ses gardes, Harold eût affirmé à son patron qu'il était impossible que Shancock se cachât sous la soutane de ce missionnaire. Jamais, en effet, deux individus n'avaient présenté un aspect plus différent que celui du détective et du personnage que celui-ci représentait à l'heure présente. Autant Shancock était svelte, élancé, nerveux et réalisait le type du parfait sportsman, qui a su, malgré les années, conserver des muscles solides, un corps souple et entraîné. Autant ce vieux prêtre, au profil en coup de sabre, au teint hâlé, ridé, parcheminé, à la barbe grisonnante et emmêlée, à la démarche lourde, fatiguée, représentait d'une façon exacte le type du pionnier en soutane usé par les éléments malsains, les fatigues et les privations de toutes sortes. En pénétrant dans le studio de l'Américain, il enleva son chapeau et laissa apparaître un front traversé par ces profondes cicatrices que laisse après elle l'opération du trépan et qui achevait de donner à sa physionomie un aspect qui commandait encore plus le respect que la compassion. Entièrement rassuré, Will Bright s'en fut vers lui en disant « Monsieur le missionnaire, soyez le bienvenu. » Chantecoq répondait d'une voix rauque enrouée « Je vous remercie de votre aimable accueil et je vous prie de m'excuser. Ma curiosité ne vous semble pas trop indiscrète. »« Nullement, » répliquait l'Américain. « Je suis très heureux de vous l'enseigner. » Remarquant la poussière qui recouvrait ses grosses chaussures, il ajouta « Vous êtes venu à pied ?»« Eh oui. » « De Quiberon ? De Quiberon ? Oh, vous devez être très là. Pas trop. J'ai l'habitude des longues marches dans la brousse. Et le soleil de Bretagne a beau, soit-il, lorsqu'il veut s'en donner la peine, ressemble à une caresse quand on le compare au soleil africain. Merciez-vous donc, monsieur le missionnaire, invitait le maître de la maison en désignant à son hôte un fauteuil placé d'une petite table sur laquelle se dressaient plusieurs bouteilles de liqueur, flanquées de verres à dégustation d'une capacité plus que respectable. Le roi des détectives s'installa avec les gestes lents et un peu cassés d'un semi-vieillard dont les articulations ne fonctionnent plus sans quelque peine. « Maintenant, » lançait cordialement Will Wright, « interrogez-moi, je vous répondrai. » Mais, remarquant que le regard du père Prosperec s'arrêtait avec complaisance sur les fioles aux étiquettes aussi variées que tentatrices, il s'empressa d'ajouter « Sans doute, monsieur le missionnaire, prendez-vous quelque chose ?» Le limier esquissa un geste assez vague pour que son interlocuteur le prît pour un signe d'acquiescement. « Whisky ?» proposait-il. Les yeux de Chantecoq, qui surmontaient d'épais sourcils, demeuraient très noirs, eurent un léger papillotement. Déjà Will Bright avançait la main vers la bouteille. Avec une timidité qui contrastait avec sa physionomie, le faux missionnaire fit « Si cela vous est égal, je préférerais un peu de vieille fine. Oh, »« C'est bien facile. » Will Bright s'empara d'une bouteille et remplit deux verres à dégustation avec le liquide doré qu'elle contenait. Pendant ce temps, Chantecoq, très adroitement, avait soulevé le gros clou plat qui fermait le réservoir pratiqué à l'intérieur de sa canne. Il se disait « Oh, je puis déguster sans danger ce premier verre, car je suis sûr que cette fine ne contient pas de poison, puisqu'il va en boire lui aussi. Mais en attendant, voilà paré pour le second et pour les autres. » Qu'il a presque m'a dit, le beau-cerf, il ne manquera pas de m'offrir. » Tout en dissimulant dans le creux de sa main gauche la poignée de sa canne, Chantecoq saisit le verre que lui offrait l'Américain, qui, une fois débarrassé, s'empara de l'autre et le porta à ses lèvres. Le détective en fit autant. La fine était de marque inférieure. « Décidément, se dit le grand limier, les Américains ne savent pas apprécier les bonnes choses. » Il reposa sur la table le verre entamé. Puis, en un mouvement dont la rapidité et l'adresse prouvaient qu'il avait déjà dû souvent l'exécuter, Chantecoq s'empressa de faire passer dans le réservoir pratiqué à l'intérieur de sa canne le breuvage qu'il dédaignait d'absorber. Puis, tranquillement, il fit « Cher monsieur, « voulez-vous que j'en vienne tout de suite au but de ma visite ?»« Certainement. Ben, si je vous l'ai décrit, vous serez très reconnaissant si vous vouliez bien me donner quelques détails sur les apparitions qui ont eu lieu ici l'hiver dernier. » L'Américain, qui avait absorbé d'un seul trait l'eau de vie très ordinaire avec laquelle son valet de chambre remplaçait la vieille fine, qu'il préférait déguster lui-même, répliquait fort complaisamment. « Bien, à vrai dire, monsieur le missionnaire, il n'y a pas eu d'apparition, mais des grands coups frappés dans les portes, les fenêtres, qui s'ouvraient d'elles-mêmes, des bruits bizarres, des cris, des sanglots, des gémissements. Tout ceci déjà est fort curieux, » soulignait le roi des détectives. « Et certainement, d'après ce que l'on m'a dit, ce serait passé pendant la nuit de Noël. »« C'est cela ? Vous étiez seul ?»« Non, j'avais plusieurs invités. »« Tous ont entendu ?»« Tous. »« Et personne n'a rien vu ?»« Personne. » « Sans doute avez-vous consigné ces faits par écrit ?»« Parfaitement. J'ai rédigé un procès-verbal que j'ai fait signer à mes amis. »« Ne pourriez-vous pas me le montrer ?»« Avec plaisir. Mais vous ne buvez pas, monsieur le missionnaire. »« Excusez-moi, je n'ai plus la tête très solide. L'Américain remplit de nouveau les verres dont, quelques instants auparavant, il avait avalé le contenu avec autant de maestria et le vida d'un train. Puis il reprit. Oh, j'ai laissé le contrat dans ma chambre. Vous permettez que j'aille le chercher? Certainement, je m'excuse même de vous occasionner ce dérangement. Jem se dirigeait vers un escalier qui conduisait directement dans son studio au premier étage lorsque Harold apparut annonçant « C'est Monsieur Lachesnais !» Wilbright fit « Faites-le entrer dans le petit salon, je suis à lui dans un instant. » Harold se retira. L'Américain continua l'ascension de l'escalier et disparut par une porte pratiquée sur une galerie. Demeuré seul, Chantecoq se dit « Je suis curieux de savoir ce qui va se passer entre Lachesnais et Wilbright. » 3 minutes après, Wilbright reparaissait. Il semblait décontenancé et, tout en redescendant les marches, il lança au pseudo-missionnaire « Oh, je suis au regret, mais je ne retrouve pas la pièce dont je vous parlais. Je crains d'avoir emporté à Paris par mégarde lors de mon dernier voyage. Tout à l'heure, lorsque la personne qui vient me voir sera partie, je chercherai encore. Je ne vous demande pas d'attendre, car cela vous forcerait à demeurer ici un certain temps. Mais si vous êtes encore pour quelques jours à Vannes, je me ferai un plaisir de vous y envoyer une copie du document en question. Vous êtes véritablement trop aimable, cher monsieur, remercia le roi des détectives en se relevant. Monsieur le missionnaire, reprenait James. Pardonnez-moi de ne pas vous accorder plus de temps, mais je ne comptais pas sur votre visite et j'avais donné à un de mes amis un rendez-vous qui ne souffrira aucun retard. Le limier répliquait « Mais c'est à moi, monsieur, de m'excuser d'avoir abusé ainsi de votre extrême amabilité. Permettez-moi de compter sur votre aimable promesse. Vous le pouvez. » L'Américain reconduisit le visiteur jusque dans le vestibule dont Harold ouvrait la porte. Chantecoq en franchit le seuil en s'appuyant sur sa canne réservoir et s'en fut d'un pas traînant. Pendant ce temps, Wilbright avait réintégré son studio et ouvrant la porte du petit salon, il interpellait « Cher ami, venez, je vous prie !» Lachesnais s'avança vers lui, la main tendue. Wilbright la serra avec une vigueur toute américaine. Puis il fit « J'étais en train de congédier le plus poliment possible un vieux rageur de curé qui, paraît-il, s'occupe de spiritisme. Ayant entendu dire qu'il y avait le fils des revenants, il était venu m'interviewer. » Lachesnais, tout en regardant bien son voisin dans les yeux, lui disait « C'est sans doute pour me parler revenant que vous m'avez fait demander de venir vous voir dans le plus bref délai ?»« Non, mon cher ami, » répliquait James en affectant une certaine gravité. « Non, si au lieu de passer chez vous, je vous ai prié de venir me voir aussi rapidement que possible, c'était parce que j'avais une petite explication très franche, très loyale et très affectueuse à vous demander. »« À quel sujet ?» questionnait le jeune artiste, interloqué par ce début. L'Américain répliquait. « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit toute la vérité ? Pourquoi m'avez-vous fait des cachotteries à moi, qui de tous vos amis, je suis peut-être le seul sur lequel vous puissiez entièrement compter ?» Lachesnais répliquait « Bon, je ne saisis pas du tout le sens de vos paroles. Réfléchissez un peu. À quoi bon ? Mieux vaut que vous me disiez tout de suite ce que vous me reprochez. Il me sera beaucoup plus facile de vous répondre. » « Soit, » acquiesçait James. Vous m'avez raconté hier que les deux domestiques qui étaient entrés chez vous le jour même n'étaient autres que deux inspecteurs de la brigade mobile de Rennes. Oui, et après? Mais j'ai le regret de vous dire, mon cher Lachesnais, que vous m'avez induit en erreur, et volontairement, ce qui m'a fait beaucoup de peine. Ces deux soi-disant inspecteurs n'étaient autres, en effet, que le détective privé Chantecoq et son secrétaire. Puis-je vous demander comment vous avez appris cela? S'exclama Lachesnais d'un ton qui, d'amical, était devenu presque glacial. Nullement embarrassé, Will Wright déclarait: « Je ne vous le dirai, mon cher, que quand vous m'aurez appris pourquoi vous avez cru devoir user avec moi d'un pareil procédé. » Sans le moindre embarras, le peintre expliquait: « C'est Chantecoq qui m'avait fait promettre que je ne révélerais à personne sa véritable identité, et je ne vois donc pas ce que le mensonge forcé que j'ai dû vous faire peut avoir d'offensant pour vous. Vous auriez pu demander à Chantecoq de faire une exception en ma faveur. » Non, non, il m'avait formulé très nettement et trop nettement sa décision pour que je le prie de me laisser me départir, même envers vous, du silence qu'il m'avait imposé. Mais soupçonnerait-il donc? De quoi? Mais voyons, mon cher, d'avoir trempé dans l'enlèvement de votre fils. Oh, je ne vois vraiment pas pourquoi vous me posez une pareille question.
Je constate que vous êtes plutôt gêné pour me répondre. Malgré tout, je reste votre ami, et je n'en veux nullement à ce policier qui fait son métier. Très mal, certainement, s'il me croit capable d'une action aussi abominable, et je vais vous en donner immédiatement la preuve.
Gravement, Will Wright poursuivit.
Ce matin, j'ai reçu la visite d'un homme qui m'a déclaré savoir ce qu'était devenu votre petit Jackie et l'endroit où Jackie se trouvait. Ajoutant qu'il se faisait fort, moyennant une somme de 500 000 francs, de vous restituer votre enfant. Il a affirmé que si vous refusiez de donner suite à cette affaire, l'enfant resterait entre les mains de ceux qui le détenaient dans un lieu tel qu'il était absolument impossible, même aux policiers les plus habiles, y compris M. Chantecoq, de l'arracher à leurs mains. Et il m'a prévenu que, si l'on touchait à sa personne, et si l'on faisait arrêter lui-même, non seulement il ne parlerait pas, mais dans les 24 heures, l'enfant serait sacrifié. Voilà pourquoi je vous ai fait venir d'urgence.
« Je vous remercie, » répliquait froidement le jeune artiste. « Mais avant de répondre à l'offre que vous me transmettez, je voudrais vous poser une question.
Dites, je vous prie,
mais comment se fait-il que ce soit à vous et non à moi que ce messager se soit adressé ?»«
Oh, pour deux raisons, » expliquait James. « La première, parce qu'il savait que j'étais votre fidèle ami, et que j'accepterai immédiatement de servir d'intermédiaire entre lui et vous. Et la seconde, parce que, connaissant ma nationalité américaine, il me reconnaissait toutes les aptitudes nécessaires pour traiter une affaire qui, en France, peut vous paraître exorbitante, mais qui, dans notre pays, semblerait beaucoup moins exceptionnelle.
Alors, votre avis ? Questionnait froidement Lachesnais. Will Wright répliquait:
il n'y a pas à hésiter. Il faut en passer par les conditions de ces bandits.
Mais je n'ai pas ces 500 000 francs en compte, déclarait le jeune artiste. Il va falloir que je réalise les valeurs. Oh, cela demandera un certain temps.
Ils attendront. Du moment que vous serez d'accord sur le principe, ils ne feront aucune espèce de difficulté pour vous accorder tous les délais nécessaires.
Le peintre objectait. « Mais qui me dit qu'une fois cet argent versé, ils me rendront mon enfant ?» Sans se démonter, le moindrement, l'Américain déclarait:
« Mais c'est exactement ce que j'ai dit à leur envoyé. » Il m'a répondu que je ne devais avoir aucune espèce d'inquiétude à ce sujet, et qu'il était prêt à demeurer entre nos mains tant que l'enfant ne nous serait pas restitué.
Lachesnais,
qui avait dégoûté son interlocuteur, avec un sang-froid véritablement digne d'éloge, sentait cependant peu à peu une grande colère s'emparer de lui. Comme il se taisait, cherchant à se maîtriser, Will Bright l'interpella. « Eh bien, vous ne dites rien, vous ne répondez pas. » « Mais je n'ai pas à vous répondre. Pourquoi ?»« Parce que je juge cette proposition inacceptable. Vous trouvez la somme trop forte ?»« Non, je trouve le procédé par trop révoltant. » »« Mais mon cher, quand on est pris et qu'on ne peut pas faire autrement. » La Chesnay éclatant s'écria, « Mais quand on peut faire autrement ?» Et, s'élevant, il s'en fut droit vers Will Bright et lui dit d'une voix menaçante, « Tout à l'heure, vous m'avez reproché de ne pas vous avoir dit la vérité. Bien à mon tour de vous dire, Will Bright, vous mentez. Personne ce matin n'est venu chez vous pour vous offrir ce prétendu marché. L'intermédiaire, c'est vous.
Moi ?
Oui, c'est vous et pas d'autre. Vous allez me dire tout de suite où est mon fils.
Mais vous êtes fou.
Non, non, j'ai toute ma raison. Vous allez parler, vous dis-je, ou bien... » Il n'acheva pas. Will Bright, l'empoignant au collet, rugissait hors de lui.
Si vous ajoutez un mot, je vous étrangle.
Surexcité par la fureur, la Chesnay allait s'élancer sur celui qui la veille encore, il croyait son meilleur ami, et qui aujourd'hui révélait à lui le plus lâche des traîtres. Mais il n'en eut pas le temps. L'Américain, sortant un Browning de sa poche, le braquait dans la direction du jeune artiste. Celui-ci l'empoigna par le bras, cherchant à le désarmer, et une lutte âpre, sauvage, s'engagea. Une détonation retentit, lorsque la porte du studio s'ouvrit d'un seul coup, et Shuttlecock, toujours en missionnaire, s'élança d'un bond sur Will Bright et lui asséna un terrible uppercut, l'étendit raide sur le sol où il demeura inanimé, et s'adressant à la Chesnay, il lança de sa voix claironnante « Mais malheureux, mais quelle imprudence avez-vous commise en vous jetant ainsi dans la gueule du loup ? Heureusement que je veillais. »«
Oh, monsieur Shuttlecock !» s'écria le jeune artiste qui avait reconnu la voix du détective.
« Oui, moi. Ah, maintenant nous allons attendre que cet immonde coquin reprenne ses sens pour le soumettre à un interrogatoire des plus serrés. » « Tu veux rien nous dire, nous aurons la ressource de nous adresser à son valet de chambre. »«
Harold ?»«
Oui. En ce moment, il serait pas en état de vous répondre, car il dort d'un profond sommeil. » Tout en souriant dans sa barbe, et en sortant de sa poche de sa soutane le pistolet à forme bizarre dont il s'était déjà servi au cours de cette exploration au trou du souffleur, le grand limier expliqua. Cette arme, qui a été inventée par un de mes amis, un as de la chimie et de la mécanique, ne contient ni poudre ni balle, mais une projectile qui, projetée par un simple ressort métallique, se dissout lorsqu'il rencontre un obstacle, une bouffée de gaz, qui annihile subitement toute personne atteinte au moins pendant 2 bonnes heures. Et en attendant que la préfecture de police l'ait adopté pour ses agents et ses inspecteurs, j'en ai fait mon profit. Si tout à l'heure je ne m'en suis pas servi contre Will Bright, c'est que vous étiez si près de lui que, fatalement, vous eussiez été endormi vous aussi. Estimant que c'était fort inutile, j'ai préféré employer un moyen plus personnel et dont vous ne risquiez pas de subir les conséquences. « Bon, maintenant, en attendant que notre voisin revienne à lui, voulez-vous m'expliquer pourquoi vous vous trouvez ici et m'expliquer les raisons de votre rixe avec Will Wright ?» La Chesnay fit à Shuttlecock le récit
du coup de téléphone d'Harold et de l'entrevue qu'il venait d'avoir avec l'Américain. Le roi des détectives fit « Bien, si vous l'avez tout de suite deviné, Will Bright n'est nullement l'intermédiaire entre vous et la bande de malfaiteurs qui a enlevé votre enfant dans le but de vous faire chanter. Se sentant à la veille d'être démasqué comme complice de l'enlèvement du petit Jackie, il a voulu faire la part du feu. Et tout en assurant l'impunité et obtenir de vous une somme d'argent dont il avait le plus grand besoin. Ne m'avez-vous pas dit que depuis quelque temps il était devenu morose ? Oui, parfaitement. Eh bien, vous attribuez cette mélancolie à un chagrin d'amour. Oui, c'est exact. Vous étiez dans l'erreur. Will Bright est ruiné. Oui, je l'ai appris par notre commun ami, le bosser. Celui-ci, par discrétion, n'avait pas voulu vous en parler, mais il ne m'a pas caché à moi que Will Bright n'avait pas encore fini de payer l'entrepreneur qui avait aménagé sa villa et que celui-ci, après plusieurs réclamations demeurées inefficaces, avait l'idée de l'attaquer en justice. « Oh, monsieur Shuttlecock !» s'écria la chaise. « Mais vous êtes vraiment admirable !»« Allons donc !»« Mais vous n'oubliez jamais aucun détail, ni aucun facteur, même psychologique. »« Oh, ceux-ci ont parfois les plus importants, car ils vous permettent presque toujours de remonter de l'effet à la cause. Et en matière de police, c'est la vérité qui doit être à la base de tout. »« Mais attention !» Notre ami James commence à revenir à lui. Je vais vous demander de vous étendre à plat ventre sur ce divan, de vous tourner vers le mur et de faire le mort jusqu'au moment où je vous dirai de vous relever. Ne me demandez pas pourquoi, car je n'aurai plus le temps de vous l'expliquer. D'ailleurs, un peu de patience, vous ne tarderez pas à le savoir. C'est une simple malice de ma façon. La Chesnay, aussitôt, se coucha sur le divan, dans la position que lui avait indiquée le détective. Quelques instants après, Will Bright entr'ouvrait les paupières et instinctivement portait la main à son menton, douloureusement meurtri par le coup qu'il avait mis knock-out. Tout d'abord, il dirigea un œil hagard vers le faux missionnaire qui se tenait debout devant lui et lui masquait la Chesnay. « Vous ? » fit-il d'une voix sourde. Il voulut appeler « Harold !» Mais le roi des détectives lui disait « Oh, inutile, il ne vous entendra pas. Il est parti chercher le docteur Le Bosser. »« Le docteur Le Bosser ? » ?»« Oui, votre téléphone ne fonctionnait pas, alors votre valet de chambre est parti sur sa bicyclette. »« Le docteur Le Bosser ?» répétait l'Américain qui s'était redressé sur son séant. Et tout en écarquillant les yeux, il ajouta « Mais pourquoi ?»« Oh, vous en faites de belles !» s'écria le limier. « Moi ?» ponctuait le misérable, qui n'avait pas encore retrouvé entièrement tous ses esprits. « Regardez !» reprenait Shuttlecock, en désignant le jeune artiste figé sur le divan dans une immobilité absolue. « La Chesnay !» fit-il en passant la main sur son front. « Oui, la Chesnay !» appuya le détective. « Mort ?» prononçait l'Américain avec épouvante. « Non, non, blessé à l'épaule. Vous avez eu de la chance que je sois arrivé à temps pour faire dévier votre arme, sans quoi vous l'atteigniez en plein cœur, et alors ?» Il aurait été bien difficile d'arranger cette affaire. « Arranger cette affaire ?» répétait Will Wright en fixant le missionnaire. Et la lumière se fit tout à coup dans son esprit. « Je comprends, » dit-il. « Vous êtes Shuttlecock. » « En effet, oui, je suis Shuttlecock. » « Alors, relevez-vous. Reprenez votre sang-froid. » « Écoutez-moi avec tout le calme dont vous êtes capable. Mais avant tout, dites-vous bien, que si vous nous livrez contre moi la moindre attaque, je ne vous raterai pas, vous pouvez en être sûr. Je vous préviens que les choses tourneraient très mal pour vous. » Et lui désignant un fauteuil qui se trouvait au milieu de l'atelier, il lui dit « Asseyez-vous là et ne bronchez pas, c'est le conseil que je vous donne. » Dominé par l'autorité qui émanait du détective, Will Bright exécuta docilement son ordre. Il avait compris qu'en face d'un pareil adversaire, il n'était que bien peu de choses et que toute tentative de résistance ne ferait qu'aggraver son cas et que, quoi qu'il pût lui en coûter, le mieux pour lui était d'entrer en composition avec ce redoutable personnage. Shattercock était beaucoup trop perspicace pour ne pas avoir immédiatement deviné l'état d'esprit de l'Américain et reconnu en lui non pas un de ces bandits professionnels qui ont toujours dans leur sac mille et mille tours, grâce auxquels ils parviennent trop souvent à échapper au filet de la justice, si serré en soi les mailles, mais à un criminel d'occasion, qui certes manquait pas des dispositions pour réussir dans cette carrière, mais n'avait pas encore acquis l'expérience et le cran nécessaires. Le chat allait pouvoir jouer avec la souris. Tout de suite, Shattercock attaquait, car ainsi que toujours, il avait résolu de mener rapidement les choses. « Monsieur Wilwright, j'irai droit au but. J'ai pour mission de savoir ce qu'est devenu le petit Jackie, le fils de votre voisin, que vous avez failli tuer il y a quelques minutes. Vous allez me le dire tout de suite. Mais monsieur, inutile de nier ni de tergiverser. Tout à l'heure, vous avez demandé 500 000 francs à M. Lachesnais pour lui révéler ce que je ne vous demande pas. Mais vous ordonne de me dire pour rien. Mais ce n'est pas moi qui sais, cherchait à éluder Will Wright. C'est une autre personne qui... Shattercock interrompait. Non, ne cherchez pas à me faire prendre des vessies pour des lanternes. Je suis au courant de tout et je vais vous en donner la preuve. Votre frère, veuve de la fille du richissime Coldmedge, avait un petit garçon âgé de 6 mois qui était très malade et n'avait même plus que très peu de temps à vivre. Ce qui ne faisait pas précisément son affaire, car cet enfant, une fois disparu, il devait renoncer à contrôler la fortune qui devait revenir au petit, et par conséquent, renoncer à la part qu'il comptait se tailler largement dans le gâteau vraiment royal. James allait répliquer, mais Shattercock poursuivait. Attendez, je n'ai pas fini. Je commence. Votre frère, qui est, comme vous d'ailleurs, un monsieur dénué de tout scrupule, ainsi qu'il y en a partout, aussi bien en Amérique qu'en France, et en France qu'ailleurs, eut l'idée, ingénieuse peut-être, mais fort répréhensible à coup sûr, de substituer à son bébé défaillant un gosse solide et prometteur d'une santé magnifique. Il se trouva qu'à ce moment, ayant des besoins d'argent, l'Américain esquissa un geste de protestation. Shattercock continuait. « Si, si, monsieur Wilwright, un besoin très urgent. Oh, je suis très bien renseigné sur votre compte. » Vous vous rapprochâtes de votre frère, qui, profitant de la nécessité où vous étiez d'avoir recours à ses bons offices, vous fit part de son projet et vous demanda, moyennant une forte rétribution, de l'aider dans son exécution. James ne bronchait plus, tant il était stupéfié par le début de ce réquisitoire. Il était en effet persuadé, au début de cet entretien, que Shattercock allait s'évertuer à lui arracher la vérité. Et pas du tout. C'était le limier qui, avec une exactitude parfaite, lui racontait avec autant de précision que s'il avait vécu lui-même. Le roi des détectives poursuivait avec cette impassibilité légèrement ironique qui le rendait si redoutable. « Ben oui, vous acceptâtes avec d'autant plus de facilité que vous aviez sous la main le poupon réclamé, c'est-à-dire le petit Lachesnais,
le fils de votre voisin, de votre camarade. Reprenant à votre compte le dicton qui prétend qu'en affaire il n'y a pas d'amis, vous jetâtes sans hésitation ni remords votre dévolu sur lui. Mais la difficulté était de vous en emparer. Oh, cela vous rebuta nullement, et vous commençâtes immédiatement à étudier un plan qui devait être d'ailleurs couronné de succès. Ayant découvert, je ne sais comment, et oh, cela importe peu d'ailleurs, que par le trou du souffleur, on pouvait accéder à un couloir souterrain, aboutissant lui-même au puits intérieur qui se trouve dans le sous-sol de la villa de la Chesnaye, vous vous dites fort justement que cela pourrait vous être très utile pour accomplir la mission dont votre frère vous avait chargé. D'autre part, vous aviez entendu raconter par les gens du pays qu'il y avait des revenants sur la côte et que ces revenants n'étaient autres que des chouans qui avaient été fusillés sous la Révolution par les soldats de Hoche, précisément dans le vieux fort sur l'emplacement duquel était bâti Kerivette. Faisant preuve d'une imagination que tant de romanciers vous envieraient, bien que de nos jours, messieurs les snobs, qui savourant en cachette les feuilletons du petit Parisien, aient proclamé qu'en littérature, l'imagination a fait faillite, afin de préparer votre affaire, de lui établir des bases solides, vous avez commencé par raconter dans le pays et puis à vos amis la Chesnaye que des revenants avaient visité votre villa. Et pour faire accepter vos dires, vous avez déclaré que plusieurs de vos amis avaient été les témoins de ces manifestations de l'au-delà et qu'ils avaient signé un procès-verbal de ces faits, celui que je vous réclamais tout à l'heure et que vous seriez d'ailleurs fort en peine de me montrer puisqu'il n'a jamais existé. Avant d'organiser votre sabbat, vous aviez tenu, ce qui était d'ailleurs très naturel, à vous assurer une complicité dans la place. Le hasard, oh, c'est d'ailleurs la seule part qu'il ait eue dans cette histoire, avait voulu que la nourrice du petit Jackie eût été autrefois au service de la famille Colmage. Cette femme, sous ses apparences bonasse et ses manifestations de bonté débordante et de franchise exagérée, est une de ces commères avides d'argent qui sont toujours prêtes à tout, pourvu que ça rapporte. Renseignée à son sujet par votre frère, vous fîtes auprès d'elle un premier sondage. Oh non, vous ne commettez pas l'imprudence de lui demander de vous livrer le petit Jackie. Vous saviez fort bien qu'elle s'y fut refusée à cause des conséquences graves que ce geste aurait pu avoir pour elle. Moyennant une forte rétribution et des promesses encore plus brillantes, vous obtenez d'elle non seulement une neutralité bienveillante, mais encore tous les renseignements dont vous aviez besoin pour agir à coup sûr. De plus en plus sidéré, Will Wright écoutait Shandcock. C'était bien ainsi que tout s'était passé. Décidément, ce n'était pas le roi des détectives privés qu'il avait devant lui, mais le prince des sorciers. L'Américain, d'ailleurs, n'était pas au bout de ses effarements. Le limier, en effet, poursuivait. Cette nounou ne vous a nullement trahi. Au contraire, elle a joué son rôle avec beaucoup d'aplomb et d'adresse. Elle vous en a donné pour votre argent. Bon, je continue. Dès que vous avez été certain que vous pouviez compter sur elle, vous avez précipité le mouvement. Votre frère, ainsi que je vous le prouverai tout à l'heure, oui, votre frère, à qui vous aviez révélé votre découverte souterraine et indiqué le moyen de l'utiliser sans danger, ainsi que vous l'aviez déjà fait vous-même, est arrivé avant-hier au soir sur un glisseur de récent modèle piloté par un marin qui connaissait à fond ces dangereux parages. Et pendant ce temps, vous avez été faire un bout de conduite au docteur Labossière, qui avait dîné en votre compagnie chez les Lachesnais, et orienté grand votre domicile. Vous avez ingurgité une drogue qui vous a donné un tel accès de fièvre. Tout cela pour vous procurer, en cas d'alerte, un alibi incontestable. Enfin, passons. Afin d'effrayer les domestiques de Carivette, dont la présence aurait pu déranger vos plans, votre frère, avec ses associés, dont je ne vous demanderai même pas le nom, à moins que vous m'y forciez, se livra à une série d'exercices fantomatiques, ce qui, ainsi qu'il l'avait escompté, sema la panique dans le personnel qui, sauf la nounou bien entendu, s'empressa de jouer des flûtes. Les patrons, évidemment, auraient pu en faire autant. Mais vous connaissiez très bien la Chesnay, et vous étiez convaincu qu'il n'était pas homme à fuir même devant les fantômes, et qu'il voudrait apprendre lui-même le fin mot de cette abracadabrante histoire. Vous saviez également que Madame Lachesnay n'était pas femme à laisser son mari tout seul dans cette soi-disant maison hantée, et qu'elle avait d'autant plus de raison d'y rester, qu'Anne tenait bon, elle aussi, parbleu, et ne pouvait, par son attitude, en apparence si courageuse, que raffermir son énergie, en admettant qu'elle fût défaillante. Et tout cela a été fort bien conçu, préparé, fort bien exécuté. Vous aviez même eu l'idée ingénieuse de faire remettre en état la plaque de tôle qui bouchait l'extrémité du conduit et de supprimer le mécanisme qui l'ouvrait du côté du puits. Oh, c'était fort adroit. Je tiens à vous le répéter. Pour des amateurs, vous avez remarquablement travaillé. Oh, il y a notamment l'histoire d'une boule de feu qui, paraît-il, se promenait dans le jardin, circulait dans les couloirs et descendait même les escaliers. Ça, c'est un truc inédit dont je ne serais pas fâché de connaître le secret, et qui prouve en tout cas que vous avez dans vos relations soit un remarquable illusionniste, soit un habile metteur en scène de cinéma. Chantecoq fit une pause. Après avoir jeté un coup d'œil vers la Chesnay, qui, fidèle à la consigne que Chantecoq lui avait donnée, conservait une immobilité parfaite, il reprit. « Eh bien, passons maintenant à la suite des événements. Le lendemain matin, averti par qui, oh, peu m'importe, je vous l'ai déjà dit, je ne m'occupe pas des comparses, donc averti que le docteur Labossière et la Chesnay ont eu avec le brigadier de la gendarmerie de Quiberon un entretien au cours duquel celui-ci s'est engagé à venir passer la nuit prochaine à Kerivette. Votre frère ou vous, faites verser dans le plat de moule que dégustaient les deux représentants de la maréchaussée une dose de poison non mortelle, mais suffisante pour les rendre malades au point d'être obligés d'interrompre leur service pendant plusieurs jours. Quant aux douaniers qui eux aussi avaient promis leur concours, j'ai appris ce matin par mon secrétaire, chargé par moi de faire une enquête à ce sujet, que le brigadier avait reçu une lettre anonyme le prévenant que sur la plage du fort Poitièvre, au début de la nuit, des contrebandiers devaient débarquer clandestinement un lot important de tabac. Ainsi que cela était à prévoir, nos braves gars bleus, donnant en plein dans le panneau, ont lâché les revenants pour les vivants. Bien inutilement d'ailleurs, ils ne doivent pas encore en être revenus. Bref, tout cela prouve un esprit d'organisation remarquable. Tous mes compliments. Le terrain, une fois déblayé, tandis que le docteur Labossière vous faisait absorber un cachet de quinine et devait, quelques minutes après, être annihilé à son tour d'une façon un peu plus brutale que les douaniers, l'enlèvement du petit Jacques se produisait, précédé et accompagné de manifestations sur lesquelles je ne m'étendrai pas.
Enfin, le coup a réussi. Jackie a été enlevé. On met à sa place un autre enfant, celui de votre frère, qui a reculé devant un crime atroce, celui d'avancer le trépas de ce pauvre petit être qui est son fils. Tout semble favoriser ses desseins. Madame la Chesnay, en s'apercevant de la substitution, reçoit un tel coup que sa raison chancelle. La demi-démence dont elle est atteinte lui fait considérer comme son fils la pauvre petite loque humaine qui a remplacé le sien. Elle croit seulement que son Jackie est malade. Et pour ne pas porter un coup effroyable à la malheureuse, la Chesnay et le docteur Le Bossert abondent dans son sens. Voilà une situation qui va singulièrement gêner les démarches de la Chesnay et paralyser l'action de la justice. Jusque-là, votre frère et vous, vous aviez été vernis, mais cela va changer. La Chesnay apprend par Le Bossert que je suis dans le pays. Le Bossert est un vieil ami du front. Vous n'avez pas fait la guerre, ni votre frère non plus. Par conséquent, vous ne pouvez pas comprendre quels liens puissants sont ceux de la fraternité des tranchées et des champs de bataille. Et à la demande de M. Le Bossert, j'accepte tout de suite d'interrompre ma villégiature et j'entre en campagne. Oh, j'ai eu vite fait d'abord de soupçonner Anne d'être de mèche avec ceux qui avaient enlevé le petit Jackie. Et quand j'ai su que vous invitiez M. et Mme La Chesnay à dîner et à passer la soirée avec vous, je me suis dit que la nuit prochaine serait certainement marquée par de nouveaux incidents qui me mettraient certainement sur la piste que je flairais déjà. Car je ne vous cacherai pas qu'après les confidences que j'avais provoquées de la part d'Anne, j'étais à peu près fixé, je pourrais même dire que j'étais tout à fait. J'ai résolu cependant d'explorer le couloir souterrain que moi aussi j'avais découvert, pas du côté de la mer, mais du côté du puits. Bien m'en pris, puisque j'y découvris une bague que votre frère avait perdue la veille en venant chercher le petit Jackie. Ah, vous vous demandez, j'en suis sûr, comment ce diable de Chantecoq a bien pu savoir à qui appartenait ce bijou. Ça, c'est mon secret, et permettez-moi de le garder. Mais votre frère, qui s'était aperçu de la disparition de son bijou, soit parce qu'il était un cadeau que sa femme lui avait fait au temps de leur fiançailles, soit parce que c'était un objet de réelle valeur, envoya deux de ses hommes explorer le couloir. Ils n'allèrent pas très loin. Après avoir tiré sur moi et m'avoir manqué, ils s'en furent piquer tous les deux une tête dans le trou du souffleur qui a pris sa revanche du succès que votre frère et vous aviez remporté sur lui. Oh, je pourrais encore vous raconter d'autres incidents qui ont précédé, accompagné et suivi les faits que je viens de vous retracer. Mais vous devez maintenant être suffisamment convaincu que j'ai en main de quoi vous faire coffrer immédiatement si vous ne répondez pas de la façon la plus prompte et la plus catégorique à l'unique question que je vais vous poser, où ai-je acquis ? Je n'en sais rien, répliqua l'Américain. Alors, ne cherchez pas à me mentir. Mais je ne mens pas. Sans blague. Et puis ne perdons pas de temps, palabres inutiles. Je vous tiens. Et tout en tirant de sa poche son pistolet somnifère, il le braqua sur James en disant: j'ai là de quoi non pas vous brûler la cervelle, mais vous annihiler pendant 2 heures. C'est-à-dire juste le temps d'aller chercher les gendarmes de Quiberon et de vous remettre entre leurs mains sous la double inculpation de tentative d'assassinat et de complicité de rapt. Comme Albright se taisait, Chantecoq accentua: vous me croyez pas? Tout en maintenant l'Américain en respect avec son arme, le détective s'en fit à reculons jusqu'à la porte du vestibule, qu'il ouvrit toute grande, et lui montrant Harold qui gisait étendu sur les dalles, il fit « Votre domestique vient d'en goûter. Quand il se réveillera, il pourra vous en dire des nouvelles. » Will Bright se dit « Oh, décidément, avec ce diable d'homme, il n'y a rien à faire. » Cependant, désireux de s'assurer l'impunité, il reprenait « Mais si je parle, qui me garantit qu'ensuite vous ne me dénoncerez pas ?»« Oh, vous ne me connaissez pas !» s'écria le roi des détectives. « Ou plutôt, vous me connaissez mal. Jamais je n'ai manqué de parole à personne. Et je vous promets que si, grâce à vous, le petit Jackie est rendu à ses parents, vous ne serez pas inquiété. Oh, je ne suis pas un pourvoyeur de prison, et mon rôle n'est pas de provoquer des arrestations inutiles, et favoriser des représailles sévères et de provoquer des châtiments impitoyables. Non, l'espèce, je suis chargé de retrouver un enfant qui a été volé. Du moment que les voleurs me le rendent, l'incident est clos. Qu'ils aillent se faire pendre ailleurs. Mais la chesnée, objectait l'Américain. La chesnée, répondit le limier. Du moment qu'il aura retrouvé son petit, il n'en demandera pas davantage. Et si je lui déclare que je me suis engagé envers vous, vous ne serez pas inquiété. Je suis sûr qu'il tiendra à ce que nos conventions soient respectées. Il est infiniment probable qu'il cessera toute relation avec vous, mais sa vengeance se bornera à cette mesure à laquelle il vous restera à vous soumettre de bonne grâce. Allons, décidez-vous. L'Américain garda le silence. Shortcock, négligemment, tira de la poche de sa soutane le pistolet somnifère dont il avait menacé son interlocuteur de lui faire subir les effets. Comprenant que ce n'était plus le moment de tergiverser, James s'écriait « Bon, mais je vais parler. Je reconnais d'abord que tout ce que vous avez dit, Monsieur Shancock, est l'absolue vérité et que les choses se sont passées ainsi que vous venez de me le dire. Quant à l'enfant, il se trouve en ce moment à la Trinité-sur-Mer, soigneusement caché dans une villa appelé Carbillon, où s'est également réfugié mon frère. Celui-ci devait partir dès hier pour Cherbourg avec le petit Jackie et une nouvelle nurse qu'il a amenée avec lui. Là, il devait prendre un paquebot pour l'Amérique. Il ne voulait pas en effet que les cornèges s'aperçussent qu'on avait substitué à leur petit-fils un autre bébé. Mais mon frère s'est blessé assez grièvement à la jambe contre un rocher au trou du souffleur et s'est trouvé dans l'obligation de retarder son voyage. Voilà tout ce que je puis vous dire. À vous de vous débrouiller avec lui. Je crois que dans votre intérêt, il vaut mieux que je n'intervienne pas auprès de lui. Je vous ai tout dit, Monsieur Shancock. J'ai confiance en vous. Je vous demande seulement de m'affirmer que la Chesnée tiendra la parole que vous avez prise envers moi en son nom.
Répondez, Monsieur la Chesnée, fit Shancock. Je la tiendrai, fit une voix vibrante. Et le jeune artiste, se dressant sur ses jambes,
fit en s'avançant vers l'Américain, qui n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Vous êtes un ignoble individu, qui mériteriez une punition sévère, puisque par vous, j'ai failli perdre tout ce que j'avais de plus cher au monde, tout ce qui faisait ma joie de vivre, mon bonheur, ma femme et mon enfant. Mais je suis trop homme d'honneur pour ne pas souscrire à l'engagement que M. Shancock a pris et a fort bien fait de prendre en mon nom envers votre personne. Wilbride, je ne déposerai donc aucune plainte contre vous. Vous portez votre châtiment vous-même. Vous ne tarderez pas à en subir tout le poids. L'Américain hasardait. « Vous n'êtes donc pas blessé ?»« Non, répliquait la Chesnay, mais sans M. Shancock, j'étais assassiné. Vous lui devez beaucoup de reconnaissance, car s'il a préservé ma vie, il a également sauvé votre tête. »« J'étais fou, j'avais perdu la raison, » bafouillait James, entièrement dégonflé. « Je veux bien le croire pour vous, » reprenait le roi le détective. Maintenant, mon cher monsieur La Chesnay, je vais vous demander de me conduire sur le champ avec votre auto jusqu'à la Trinité-sur-Mer, où j'aurai avec Douglas Wilbright une petite explication qui me prendra, j'en suis sûr, beaucoup moins de temps que celle que je viens d'avoir avec son frère. Mais... comme je suis homme de précaution avant tout, et que je ne veux pas que le Wilbright numéro 1 soit prévenu par le Wilbright numéro 2 de la visite que nous allons lui rendre, je vais avoir recours à un moyen aussi énergique qu'inoffensif pour interdire aux deux toute communication. Et avant que l'Américain eût eu le temps de prendre la plus élémentaire mesure de sauvegarde, Shancock, qui avait conservé à la main son pistolet somnifère, le braqua dans sa direction et appuya sur la détente. Un coup sec retentit. James oscilla sur lui-même, chancela et s'en fut effondré sur le divan que la Chesnay venait de quitter. « Mais maintenant, en route !» pressait le grand limier. « Le temps de chercher ma voiture et je suis à vous. » Shancock parcourut du regard le champ de bataille sur lequel il venait de remporter une victoire aussi éclatante. Les deux vaincus, Wilbright et Harold, étaient littéralement anéantis, l'un sur le divan de l'atelier, l'autre sur les dalles du vestibule, les bras en croix comme s'ils faisaient camarades. Paisiblement, le faux missionnaire quitta la maison dont il referma la porte et attendit la Chesnay. Bientôt, le soufflement d'un moteur annonça sa présence. Shancock, voyant apparaître la torpedo aux 6 cylindres que pilotait le jeune peintre, s'élança et prit place à côté du conducteur et le pria de le conduire à Kerostin. « Je veux, fit-il, terminer cette affaire sous les traits de Shancock. « Mais ne craignez rien, ce ne sera pas long. Je suis très entraîné dans ce genre de sport. » « Quand je m'en suis aperçu, » déclara la Chesnay, dont le cœur battait d'impatience et d'allégresse à la pensée qu'il allait revoir son cher petit Jackie. Ainsi que le détective le lui avait dit, la Chesnay n'attendit pas longtemps. 20 minutes après être rentré chez lui, Shancock reparaissait sous sa physionomie et ses traits habituels, flanqué de météores auxquels, tout en se démaquillant et en changeant de costume, il avait narré avec sa concision habituelle son entrevue avec Wilbright. Le visage du limier exprimait une satisfaction légitime. Il touchait au but. Il dit à la Chesnay, « Oh, excusez-moi de ne pas m'asseoir à côté de vous, mais j'ai besoin de m'entretenir avec mon secrétaire. » Il s'installa à l'arrière de la voiture. Le peintre mit en marche.
Les 15 kilomètres environ qui séparent Kerostin de la Trinité-sur-Mer furent franchis en moins d'un quart d'heure. En arrivant sur le pont, Météore, qui avait écouté comme toujours avec beaucoup d'attention les instructions de son patron, demandait à un pêcheur « Connaissez-vous la villa Kerbihan ?» Le pêcheur répliquait « C'est tout là-bas, au bout du quai, une maison blanche en bordure du bois. On la voit d'ici. Hein, celle dont la cheminée fume ?» fit le secrétaire. « Oui, c'est ça !» La Chesnay repartit dans cette direction. Chantecoq dit au peintre « Je vais entrer seul dans la maison. Météore, qui a reçu mes directives, vous dira ce que vous aurez à faire. » Chantecoq sonna la grille de la propriété. Une assez gentille villa, très simple, qui semblait beaucoup mieux convenir à des retraités ou de vieux rentiers qu'à un Américain aux beaux-parents milliardaires. Un valet de chambre vint ouvrir. Chantecoq lui dit avec un imperturbable aplomb « Oh, je suis le docteur Le Bosser de Quiberon, et je viens de la part de M. James Wilbright, qui désire que je me rende compte de l'état de votre maître. Je vais prévenir monsieur, » fit le détective. Monsieur le docteur veut bien patienter une petite minute. Très volontiers. » Quelques instants après, le valet de chambre reparaissait et priait le faux médecin de le suivre. Sans méfiance, le gendre de Colmedge venait de tomber dans le piège que le limier lui avait tendu. Il était couché dans le salon sur une chaise longue en osier. Sa jambe droite était enveloppée dans un pansement. Il semblait beaucoup souffrir. Il ressemblait à son frère cadet et représentait ce type uniforme d'anglo-saxon qu'on dirait fabriqué en série. « Docteur !» dit-il dans un français assez correct, mais avec un accent yankee assez prononcé. « Je vous remercie beaucoup de vous interroger, car j'ai bien mal. Le médecin de Carnac, qui m'a visité, ne m'a pas caché que ma blessure avait un très mauvais aspect et qui me conseillait de me faire transporter à la clinique de Kahana, où il y a un excellent chirurgien qui, en cas de nécessité, m'opérerait fort habilement. Mais cela m'est désagréable de m'en aller d'ici et de laisser mon petit garçon, un bébé de 6 mois, sous la garde d'une nurse que je connais à peine, puisqu'elle n'est que le payeur à mon service. Je vais donc vous montrer ma plaie. « C'est inutile, monsieur, » coupait le limier. « Pourquoi ?»« Parce que je ne suis pas médecin. » Douglas Wilbright eut un sursaut d'étonnement. « Comment, dit-il, vous n'êtes pas le docteur Le Bosser ?»« Non, 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 je suis Chantecoq, détective privé. »« Chantecoq ?» répétait l'Américain en blêmissant. « Oh, ça, monsieur, comment vous êtes-vous permis de pénétrer chez moi sous le nom d'un autre ?»« Oh, parce que si je m'étais présenté sous le mien, vous m'eussiez immédiatement fermé votre porte. Or, j'avais absolument besoin de vous voir. Je vous ordonne de vous retirer. Oh, ne vous fâchez pas, monsieur. D'abord, cela vous ferait du mal et il est inutile de faire monter votre température. D'ailleurs, ne croyez pas que je vienne ici animé d'intentions hostiles à votre égard, non, loin de là. Ainsi que je vous l'ai dit, je suis détective privé et je fais mon métier. Villégiaturant dans la presqu'île de Quiberon, j'ai appris que vous aviez perdu une bague à laquelle vous teniez beaucoup. Et je me suis mis en tête de vous la retrouver. J'y suis arrivé et je vous la rapporte. Je suis même tout à fait décidé à vous la rendre, mais une condition cependant.
Laquelle ?
Interrogeait l'aîné des Wilbright, qui commençait à comprendre le jeu de son interlocuteur. Et celui-ci reprenait avec son plus aimable sourire. « Eh bien, c'est que vous allez me restituer, en échange de ce bijou, L'enfant qu'il y a deux nuits, vous avez volé au propriétaire de Carrivette. » L'Américain eut un nouveau sursaut. Oh, cette fois, ce ne fut pas de surprise, mais d'effroi. Néanmoins, il protesta. « Monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. »« Oh, vous le savez fort bien, au contraire, » affirmait Shandcock. « L'enfant qui est ici est le mien. »« Non, monsieur, le vôtre est à Carrivette. »« Et rien n'est plus facile de vous le démontrer, ainsi qu'à la justice, qui, si vous persistez dans vos délégations, va être immédiatement saisie par moi de cette affaire. » L'aîné des Wilbright reprenait. « C'est très mal à vous de profiter que je suis en ce moment gravement blessé et par conséquent en état d'infériorité manifeste pour vous livrer contre moi une attaque aussi injustifiée. » Jean de Coq, toujours avec le même calme, ripostait. « Je ne suppose pas que vous m'en rendiez responsable de l'accident que vous êtes arrivé. Si pénible en soit pour vous les conséquences, il n'en est pas moins vrai que vous avez plongé une famille dans le désespoir en lui volant son enfant. Je sais bien que vous n'avez guère la bosse de la fraternité, puisque vous n'avez pas résisté et hésité à abandonner votre fils. Au fait, parlons un peu de votre fils. C'est un pauvre petit être bien chétif, mais qui semble même bien malade. Bien, par exemple, je serais curieux de savoir pourquoi vous avez fait imprimer sur son bras un cercle au milieu duquel on lit ces deux lettres RF, qui sont, je le présume, les initiales de son prénom. En effet, reconnaissait l'Américain de plus en plus troublé, mon fils s'appelle Robert Frank, mais jamais, ainsi que vous le dites, je l'ai fait imprimer ce signe sur son bras. Et alors, si ce n'est pas vous, concédait le détective, ce sont probablement et même certainement vos beaux-parents, qui, prévoyant que vous étiez parfaitement capable de remplacer cet enfant condamné à mourir par un autre bébé bien portant, ont fait pratiquer à votre insu cette marque destinée à prévenir et à démasquer votre machiavélique complot. « Mais c'est horrible, horrible !» balbutiait Douglas. « Mais non, je ne savais pas !» Remarquant l'effondrement complet de son interlocuteur, Shandcock concluait. « Allons, monsieur, un bon mouvement en faveur duquel il vous sera beaucoup pardonné. Car, ainsi que je le disais tout à l'heure à votre frère, je n'ai qu'une mission, retrouver un enfant disparu et le rendre à ses parents. Le reste ne me regarde pas. Vous allez donc appeler immédiatement votre valet de chambre et lui ordonner de vous apporter le petit Jackie, afin que vous le rendiez vous-même à son père. Oh, c'est inutile! Monsieur Shandcock, lançait une voix joyeuse. C'était celle de la Chesnay qui apparaissait tenant son fils dans ses bras. Météor, qui le suivait, expliquait. « Nous l'avons trouvé tout seul, au fond du jardin, en train de dormir à l'aube dans sa voiture. » Le jeune artiste complétait. « Et je n'ai pu résister au désir de m'en emparer. »« Oh, vous avez eu d'autant plus raison, approuvait Shandcock, que personne ne songe ici à vous le disputer. » « N'est-ce pas, monsieur Douglas Wilbright ?»« Il ne vous reste plus qu'à me faire jeter en prison, » grommelait l'Américain. « Non, » déclarait le roi des détectives, « à moins que monsieur Lachesnay ne l'exige, ainsi qu'il en a le droit. »« Bon, je n'y tiens pas, » répliquait Jean. « Cependant, je mets à mon silence une condition absolue. »«
Laquelle ?»
interrogeait l'aîné des Wilbright avec anxiété. « Eh bien, c'est que, dès que votre blessure sera guérie, vous quittiez la France pour n'y plus jamais revenir. »«
Et mon fils ?»«
Votre fils, » répliquait Shandcock, « ne vous sera pas rendu. »«
Pourquoi ?»«
Parce qu'il ne faut pas que vous ayez la tentation de recommencer ce que vous avez failli réussir. »«
Et tout à l'heure, » complétait la Chesnay,
Je téléphonerai à vos beaux-parents de venir le chercher. Avec de bons soins, il parviendra peut-être à le sauver et même à le guérir. C'est tout ce que je souhaite. Battu sur toute la ligne et souffrant d'ailleurs de plus en plus de sa blessure, l'Américain eut un geste de découragement qui était un acquiescement définitif à ce qu'exigeaient de lui Chantecoq et la Chesnaye. Et ceux-ci allaient se retirer avec le petit Jackie lorsque la nurse apparut affolée.
« Monsieur, monsieur, » fit-elle, « le petit Robert n'est plus dans sa voiture. On l'a sûrement volé pendant que j'étais rentré dans la maison chercher des aiguilles. »«
Non, ma fille, » rectifia le grand limier, « on l'a repris, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. » Et désignant Douglas Wilbright, qui, très pâle, se mordillait les lèvres, il reprit, « Monsieur vous mettra au courant, si toutefois il le juge utile. » Et laissant la nurse figée de stupeur en face de son maître, le détective, son secrétaire et le jeune artiste, qui serrait tendrement son cher bébé contre son cœur, gagnèrent aussitôt le dehors. Ils remontèrent en voiture. « Maintenant, » déclarait Chantecoq, « il ne nous reste plus qu'à préparer Madame Lachenaye. C'est une formalité très délicate. Il vaudrait mieux en laisser le soin à le bosser. Eh bien, nous allons donc nous rendre directement à Quiberon, le prendre avec nous et le ramener à Quérivette. » « Entendu, » acquiesçait la Chesnaye, qui vaut prendre le volant du passé Jackie à Météor. Celui-ci fit, en prenant l'enfant sur ses genoux, « Hier, cuisinière, aujourd'hui, nounou, je ne désespère pas d'être un jour une femme, une sage-femme. » Une heure après, le docteur Le Boster pénétrait avec la Chesnaye dans la villa. Ils étaient accompagnés d'une jeune femme à la figure saine et au corps robuste, qu'ils avaient été chercher au village Masseneur. La Chesnaye la fit entrer dans le studio avec le docteur et s'en fut chercher sa femme qui était en train de faire sa correspondance. « Le docteur Le Boster est en bas, dit-il, il a besoin de te parler. »« Ah, cela tombe fort bien, dit-elle, j'allais lui téléphoner de venir. Bébé n'est pas bien du tout. » « Le temps de cacheter cette enveloppe et je te rejoins, ce bon docteur. » Jean redescendit, se demandant comment sa femme allait supporter cette nouvelle épreuve. Inquiet, il se disait que trop de bonheur peut être aussi dangereux que trop de peine. Et ce fut le cœur battant d'anxiété qu'il pénétra dans l'atelier. Quelques instants après, Yvette y apparaissait à son tour.
« Mon cher docteur, » fit-elle, « ainsi que je le disais à Jean, j'allais vous téléphoner. Baby ne va pas. »«
Je sais pourquoi, » répliquait aussitôt le médecin. « Cela m'ennuie, car je sais que vous tenez beaucoup à Anne, mais il ne faut pas la garder. Son lait ne vaut plus rien.
Changer de nourrice. « Mais c'est très grave ce que vous me dites là. »«
Très grave, en effet. »« Voilà pourquoi je vous ai amené tout de suite cette personne dont je réponds et qui va prendre immédiatement la place d'Anne. »«
Mais comment vais-je lui annoncer, elle qui nous est si dévouée, si attachée ?»«
Laisse-nous faire, » intervenait le jeune artiste. « Elle est là-haut ?»«
Oui, dans la nursery. »
« Eh bien, pendant que tu vas t'entendre avec Rose, je vais monter et arranger tout ça avec notre ami le Vasseur. »«
C'est cela, » approuvait la jeune femme. « Donne-lui une bonne indemnité, elle le mérite. »«
Oui, c'est entendu. »
Le peintre et le médecin s'en furent retrouver Anne, qui cousait paisiblement auprès de son nourrisson. Tout de suite, le Vasseur attaquait. « Vous êtes une gueuse et vous mériteriez 100 fois d'aller en prison. »«
Moi ?»
s'écria la Havraise en pâlissant.
« Oh, peut-on dire, peut-on ?»
le docteur poursuivait. « Oh, inutile de perdre votre temps en discours. Vous avez joué ici une comédie honteuse.
Vous vous êtes faite la complice d'un crime abominable. À quoi bon nier? Nous en avons la preuve absolue. Vous allez donc déguerpir immédiatement d'ici. Le temps de faire votre paquet. Allez, dépêchez-vous. »
Anne ne se le fit pas dire deux fois et s'en fut au grenier chercher sa malle. Dès qu'elle fut partie, la Chesnay s'en fut ouvrir la porte du cabinet de toilette, puis celle de sa chambre où Chanteclerc attendait avec Météore, qui tenait toujours le poupon dans ses bras. « Venez !» leur dit-il. Ils repassèrent tous deux dans la nurserie. « Maintenant, » dit le bosseur, « vous pouvez dire à Madame la Chesnay de monter. » Jean se précipita. Le médecin reprenait, « Oh, cher Chantecoq, puisque vous avez retrouvé le fils de Madame la Chesnay, c'est à vous qu'en vient l'honneur et le plaisir de le lui rendre. » Chantecoq prit le petit Jacquis que lui tendait son secrétaire. Des pas s'élevaient dans l'escalier. La porte s'ouvrit. Yvette apparut avec son mari. À la vue du détective qui tenait son enfant dans les bras, elle eut un cri d'étonnement, puis courant vers le berceau, elle se pencha. L'enfant de Wilbraith dormait d'un sommeil fiévreux, agité. Elle se retourna vers Chantecoq, et en un admirable élan de maternité, elle s'écria « C'est le mien, c'est mon Jacquis !» Elle le prit dans ses bras, le couvrit de baisers, puis elle fit « Ah, maintenant je me souviens, on me l'avait volé. Ah oui, on me l'avait volé, n'est-ce pas? Je m'en rends compte à présent, j'ai été folle. » « Non !» rectifiait doucement le bosser, illusionné. Et tout en lui désignant Chantecoq, il ajouta « Je vous présente l'illustre détective Chantecoq, qui, grâce à un de ces prodiges dont il a le secret, a retrouvé en 48 heures votre chère baby. »« Oh, monsieur !» s'écria Yvette au comble de l'allégresse, « je ne trouve pas les mots qu'il faudrait pour vous dire. » Des sanglots de joie l'étranglaient et elle ne put que balbutier « Merci, merci !» Le bosseur, le désignant Météore, reprenait. Le secrétaire, le Chantecoq, lui aussi, a été épatant. Météore gonfla ses joues, puis il fit « Surtout en cuisinière !»« En cuisinière !» répéta Yvette, qui souriait à travers ses bonnes larmes. « Armandine !» révélait la Chesnay. « C'était lui !» « Et moi, Augustin, pour vous servir !» ajoutait le roi des détectives. « Alors je comprends tout maintenant !» déclarait la jeune femme, qui avait entièrement repris possession d'elle-même. Puis, montrant le berceau où le pauvre petit Robert Franck était couché, elle demanda « Et ce petit ?» Le bosser, frappant sur l'épaule de Chantecoq, s'écriait « Oh, maintenant, cher ami, vous pouvez tout dire !» Épilogue. Deux jours après, Douglas Wilbright était transporté à la clinique de Carnac. Sa plaie avait pris un aspect épouvantable. Il était trop tard pour l'opérer. Dans la soirée, il mourut de gangrène gazeuse. Aidan. Quant à son cadet, ainsi que le lui avait dit la Chesnay, il portait en lui son châtiment. 3 mois après, criblé de dettes, acculé, il se logeait une balle dans la tête. Son valet de chambre, Harold, était arrêté le surlendemain pour avoir voulu s'approprier, après avoir brisé les scellés, le peu d'argent qui restait dans son secrétaire. La nourrice Anne, qui avait regagné le Havre, honteuse et repentante, se promit bien de ne plus céder désormais à la tentation de gagner de l'argent autrement que par des moyens honnêtes. Enfin, les Colmedge, rentrés en possession de leur petit-fils, eurent la joie de le voir revenir à la vie, et Chantecoq, une fois de plus, eut le droit de se dire «
quand on viendra me raconter qu'ici-bas il n'y a pas de justice, je pourrais répondre que c'est parce que ceux qui en ont besoin ne savent pas où elle est, ou que ceux qui la détiennent ignorent l'art de s'en servir.